Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des figures qui ont acquis une autorité devenue presque universelle. C'est un peu le cas de celle dont nous allons parler ce matin. S'il est docteur de l'Église et l'un des plus grands penseurs du christianisme des premiers siècles, saint Augustin est surtout mondialement connu pour ses confessions, une sorte de journal intime qui raconte la conversion de cet homme, celle d'un brillant jeune homme sensuel et philosophe, qui découvre le Dieu des chrétiens et change radicalement de vie. Un converti devenu un maître de vie, que l'on connaît moins cependant comme un maître de prière, un grand maître de prière. Saint Augustin, ce maître de prière, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, Emmanuel Marie, vous êtes prêtre et abbé des chanoines de la grâce et auteur donc d'un ouvrage intitulé Saint Augustin, maître de prière et docteur de la louange, paru aux éditions des Carmels, du Carmel. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors je précise aux auditeurs que vous êtes depuis l'abbaye Notre-Dame de la Grâce. En ces temps de confinement, on essaie de trouver toutes les astuces possibles et imaginables. Et puis en plus, pour des raisons de santé, vous ne pouviez pas vous déplacer. Donc on va vous chercher jusque chez vous, donc dans l'Aude, ça reste la région Occitanie. Peut-être faut-il commencer tout simplement par présenter les chanoines de la Grâce pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc, vous êtes des religieux. Et vous n'êtes pas sans lien avec saint Augustin.
Tout à fait, nous sommes des religieux qui vivons en communauté, en abbaye. On pourrait dire que le chanoine se caractérise par un triptyque. Il est un homme de communauté, un homme de prière et un pasteur. Il s'occupe d'apostolat, soit en paroisse, soit avec des groupes ou ailleurs.
Alors le lien avec saint Augustin, quel est-il? C'est que vous vivez selon une des plus anciennes règles religieuses qui soient, non?
Tout à fait, nous vivons sous la règle de saint Augustin, qui est caractérisée d'abord par sa simplicité et une note toute sensible sur l'unité dans la charité. Elle caractérise notre règle et donc notre vie commune.
Voilà, donc vous êtes des religieux apostoliques. Vous êtes combien de frères à peu près? Et puis, puisqu'on va parler de prière, parlez-nous un peu de la vie de prière qui est la vôtre.
Nous sommes actuellement 38 religieux, avec deux postulants, des novices, une communauté jeune. Nous prions selon l'office romain, en grégorien, tous les jours, depuis les matines, les laudes, la messe, bien sûr, la petite heure au cœur, et puis vêpres, complies. Tout ça étant aussi une église ouverte où les gens peuvent se réunir, venir prier avec nous, chanter ou se rassembler tout simplement. C'est une église pour les fidèles aussi.
Alors ça vous donne évidemment quelques légitimités à propos de la prière. Vous avez donc écrit un livre, Saint Augustin, maître de prière et docteur de la louange. Comme je le disais en introduction, le grand public connaît saint Augustin. On a l'impression que ça fait partie en fait des figures du patrimoine spirituel mondial, hein, comme un Gandhi ou comme une Mère Teresa. On connaît saint Augustin et on connaît ses confessions et ce jeune homme. Avant qu'on parle de sa vie, on le connaît moins comme un maître de prière. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre en avant ce docteur de l'Église, hein, on l'oublie souvent.
Comme vous le disiez tout à fait, Augustin est à la fois une grande figure, une figure presque actuelle. Il est presque notre contemporain par sa mentalité, par le contexte de son époque, mais il est souvent catalogué comme un spéculatif, un philosophe, un docteur qu'on ne pourra jamais atteindre, que les laïcs, les fidèles ne pourront pas lire ou comprendre, alors qu'il a été un pasteur, et comme pasteur, comme évêque, il a beaucoup, beaucoup encouragé à la prière, et de manière très simple, très concrète, quotidienne même, durant toute sa vie d'évêque. Et c'est pour lui rendre justice, en quelque sorte, et le mettre à la portée des fidèles que j'ai écrit ce petit ouvrage.
Alors c'est un ouvrage dans lequel on va se plonger, qui est très facile à parcourir, comme ces ouvrages souvent que publient les éditions du Carmel, il faut le dire. Ouvrage spirituel, des chapitres tels que « Qu'est-ce que la prière ?»,« Que demander dans la prière? Où et comment prier? Ces flèches qui traversent les cœurs, un appel à contempler. Donc vous nous prenez là par la main avec saint Augustin. Saint Augustin, est-ce que vous pouvez commencer par le présenter? Donc il naît donc à Tagaste, c'est en province donc d'Afrique, c'est en l'actuel souk d'Arras, si j'ai bien compris, en Algérie. Donc il naît en 354. Qu'est-ce qu'on connaît de la vie de cet enfant et de ce jeune homme? Vous dites jeune homme brillant, je crois qu'il y a un de vos chapitres. Très tôt, je perçois que je suis doué, très doué pour apprendre, mais aussi très habile pour les bêtises d'adolescents, et celles-ci ne manquent pas.
Oui, je pense que beaucoup de mamans pourraient se reconnaître dans leur lien avec saint Augustin. Augustin est né dans une famille dont la maman était seulement chrétienne. Il a eu une adolescence houleuse, des mauvaises habitudes, amitiés. Comme c'était un garçon surdoué, et très sensuel et orgueilleux, il est très vite devenu d'une part ambitieux. Il a franchi la Méditerranée pour partir sur Milan, Rome et Milan. Et puis, comme sensuel, il a pris une concubine à 17 ans. Il a eu un enfant très vite. C'était aussi un homme très intelligent, mais tourmenté par le problème du mal, comme beaucoup. Et il est rentré dans la secte des manichéens, pensant y trouver une des solutions. Il a été traversé par des doutes, et il priait toujours pas. Il a enfin rencontré des médiateurs, des amis ou des hommes qui l'ont impressionné comme saint Ambroise. Et son intelligence alors s'est ouverte à la vérité. Mais il lui a quand même fallu presque 14 ans de galère, dirait-on, pour franchir le pas de la conversion totale. Et c'est une conversion voilà, pour se libérer en particulier d'une part de l'orgueil et d'autre part de sa sensualité.
Donc
il est converti, il a 33 ans.
Il est baptisé donc en 383, c'est ça hein?
387 à peu près, à Milan, des mains de saint Ambroise, qui a été à la fois son évêque et puis on pourrait dire son père.
Alors on y reviendra au long de votre ouvrage sur la vie de saint Augustin, vous nous aiderez à le rendre contemporain comme vous le faites dans votre livre. Il y a une phrase évidemment qui est la plus connue de saint Augustin, « Mais toi tu étais plus profond que les tréfonds de moi-même et plus haut que le très haut de moi-même ». Comment est-ce que saint Augustin, cette phrase parle de ce Dieu intérieur qu'il cherchait à l'extérieur, comment saint Augustin a découvert la prière? Vous êtes plongé dans ses écrits, il en parle, il y a une mention qui dit les débuts de cette découverte.
Oui, il en parle beaucoup dans ses confessions et ensuite par des allusions nombreuses ailleurs, dans des sermons en particulier où il faut arriver à décrypter qu'il s'agit de lui. Mais on sait très bien qu'il a été marqué par les philosophes néoplatoniciens, qui étaient des philosophes de la méditation, de l'intériorité, qui lui ont appris le retour au cœur, la réflexion sur soi. Mais tout ça ne donnait pas encore la prière. Et c'est au cours de sa descente dans la perception de sa misère, le doute sur lui-même, le dégoût de lui-même, l'impossibilité à franchir le pas de la pureté, qu'il a rencontré le visage du Christ, et du Christ humble, du Christ petit, le Christ de l'incarnation, le Christ qui se fait misérable pour rencontrer notre misère à nous, qui se fait pauvre pour nous toucher.
Quand vous dites ces combats, on les connaissait, donc vous dites que c'était un jeune homme brillant et sensuel. Est-ce à dire que c'était de ce côté-là, surtout, qui était ces difficultés?
Oui, difficultés de tous ordres, des difficultés dans l'ordre de la chasteté, de la pureté, ça c'est évident, il en parle beaucoup, des difficultés dans l'ordre de l'orgueil, de la vanité, même susceptible probablement, des difficultés aussi dans l'ordre de l'intelligence, il a eu des doutes, certains philosophes l'ont fait douter de lui-même, de toute chose. Ça a dû être pour lui à la fois des tourments, vous voyez, à la fois intérieurs, sur la volonté, l'intelligence, de tous ordres. Et donc, comme c'était un homme de vérité, hein, il cherchait vraiment le vrai. Et petit à petit, saint Ambroise et d'autres rencontres l'ont porté vers le Christ, qu'il ne trouvait pas chez les philosophes et ni chez les manichéens.
Donc, saint Augustin, maître de prière et docteur de la louange, c'est donc pour rappel le titre de votre livre, paru aux éditions du Carmel. Si on se plonge dans un chapitre, qu'est-ce que la prière? Vous citez donc une phrase tirée, je crois, donc de saint Augustin. « Ta prière est un entretien avec Dieu. Quand tu lis, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est avec Dieu que tu parles. Qu'est-ce que vous diriez que saint Augustin nous dit pour nous introduire quelque part à la prière, comme vous le faites dans ce chapitre?
Oui, effectivement, la belle phrase que vous citez est tirée d'un sermon qu'il a fait à ses fidèles. Parler à Dieu, on s'entretenir avec Dieu. La prière, c'est d'abord pour Augustin, peut-être à cause trop de son chemin, hein, c'est d'abord une demande. C'est la supplique, c'est l'imploration. Pour lui, ça a été dans ses doutes, ses souffrances, des cris, des pleurs, hein, des gémissements. On peut penser aussi à sa maman, Monique, hein, qui pleure pour lui, qui prie pour lui, et dont les pleurs étaient des formes de prière. Donc la prière, c'est d'abord la demande. Et puis ensuite, quand elle devient rencontre avec le Christ, avec le visage de Jésus, Dieu est un tu en face du moi, elle s'imprègne d'amour. Et alors elle peut devenir louange, bénédiction, action de grâce.
Dans le chapitre qui précède, intitulé « Reviens à ton cœur », vous laissez entendre donc le pèlerinage intérieur qu'a fait saint Augustin, et particulièrement donc en faisant face à sa détresse. Vous disiez tout à l'heure que revenir à son cœur, c'est le début de la prière, mais ça n'est pas tout à fait la prière. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, le retour au cœur, hein, qui est la démarche de l'intériorité, c'est déjà une démarche nécessaire. C'est celle où on apprend dans le silence à fuir le monde à l'extériorité, la dispersion. Mais après, il faut rencontrer une personne, donc il faut trouver la grâce. Néanmoins, c'est le chemin pour lui, hein, qui passe par le cœur et qui va vers Dieu. Il dit « Le chemin n'est pas long de ton cœur à Dieu ». Donc, première démarche, revenir au cœur, intériorité. Et deuxième démarche, percevoir que Dieu est dans ton cœur, que Dieu habite ton cœur, que ton cœur est un temple de Dieu. Et ça, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, c'est le don de la foi, de l'amour. Et ça jaillit en prière, en demande, en supplication, en gémissement ou en louange.
Récemment, on a fait une série d'émissions, j'allais dire à l'occasion du dernier confinement, mais c'est un confinement qui n'en finit pas, avec les carmes de Toulouse. Et une chose m'a frappé dans les interventions des différents carmes, c'est qu'on a souvent l'impression qu'il faut avoir été touché par Dieu, il faut avoir reçu une grâce particulière pour après se mettre à prier. Il nous répétait à plusieurs reprises qu'en fait, c'est aussi en se mettant à prier que l'on peut découvrir Dieu. Saint Augustin, c'est un peu le contre-exemple de ça, non? Il a quand même reçu une grâce forte avant de se mettre à prier.
Oui, on peut dire que... Enfin, il me semble que pour Augustin, la prière est inhérente à l'homme. Elle est un acte naturel de l'homme devant une transcendance, devant ses peurs. Après, pour qu'elle soit une prière chrétienne, qu'elle rencontre une personne, qu'elle rencontre le visage de Dieu, il faut une grâce, c'est la foi. Et la grâce, alors, précède l'acte par lequel on se donne. Et on ne peut pas poser un acte de prière si on n'a pas reçu une grâce. Mais la grâce accompagne la prière, et la prière devient cette grâce par laquelle on rencontre Dieu. Elle devient désir de Dieu. Et ce désir est à la fois greffé sur mon être propre qui veut, qui désire, qui a peur, qui gémit, qui a besoin d'une réponse qui vient d'en haut, et en même temps elle est soufflée par Dieu, elle est mue de l'intérieur par l'Esprit. C'est une alliance entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de ma nature humaine, tout simplement.
Donc vous...
Ça, Augustin l'a bien vu.
Donc à vous entendre, pour bien comprendre votre réponse, vous dites un peu des deux, mon capitaine, si je puis dire. C'est à la fois...
Oui, tout à fait. Dieu saisit notre nature, qui est une nature inquiète, une nature qui veut le vrai ou qui veut le bien, qui a peur ou qui cherche des solutions. Et il se saisit de nos angoisses ou de nos désirs et il les oriente vers lui, vers le bonheur, en fait, vers le vrai bonheur.
Alors il y a une phrase, toujours dans ce chapitre « Qu'est-ce que la prière ?» avant qu'on fasse une première pause musicale, vous dites « Ton désir, c'est ta prière ». Et je crois que là, vous le citez aussi, Augustin. Alors quand on sait, pour le peu que vous nous avez dit, l'homme de désir que ça a été, des grands désirs, hein, le désir de comprendre, voilà, des désirs aussi parfois désordonnés, qu'est-ce que saint Augustin voulait dire par là « Ton désir, c'est ta prière ?»
Ton désir, c'est ce qui te fait tendre vers ce que tu crois être ton bonheur, ce que cherche ton bonheur, la vérité, l'amitié, la réussite. Et dès que tu désires et que tu cherches une aide, eh bien tu pries. Donc pour lui, le désir, c'est cette tension vers un bien et qui, pour nous, est vers Dieu. Donc dès que tu désires, eh bien tu commences à prier. Et le désir peut être tout simplement le gémissement inconscient de celui qui a mal. Il peut être une prière explicite ou informulée, une prière refoulée ou complètement balbutiée. Mais dès lors qu'il y a un certain désir de se sauver, de trouver une solution, d'être aidé dans nos souffrances, hein, une maman qui a perdu son enfant, qui ne sait pas comment le dire, qui ne sait que pleurer, eh bien, dès qu'elle désire quelque chose, elle prie. Et c'est très rassurant parce que ça met la prière dans l'orbite de nos pauvretés, de nos simplicités, de nos vies qui sont souvent très très pauvres et marquées non pas par des grandes méditations, mais par tout simplement des grands désirs.
Je vais citer saint Augustin pour cette phrase que vous avez donnée donc dans votre livre qu'on a cité tout à l'heure, avant qu'on fasse une première pause. Ta prière est un entretien avec Dieu. Quand tu lis, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est avec Dieu que tu parles. Je rappelle le titre de votre livre, saint Augustin, maître de prière et docteur de la louange, paru aux éditions du Carmel. On vous retrouve dans quelques minutes.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Saint Augustin, ce maître de prière, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Notre invité, Emmanuel Marie, vous êtes prêtre et abbé des chanoines de la Grâce et auteur donc de cet ouvrage que l'on parcourt avec vous, saint Augustin, maître de prière et docteur de la louange, paru aux éditions du Carmel. Vous nous disiez au début de l'émission que saint Augustin était un homme très contemporain à sa manière. On a compris, peut-être eu égard à certains traits de son tempérament ou de certains aspects de ses jeunes années. Vous disiez aussi que c'était quelqu'un qui était travaillé par le mystère du mal. Pouvez-vous nous redire pourquoi pour vous il est très actuel, saint Augustin ?
Comme vous le dites très bien, Emmanuel, il est contemporain pour nous de par son tempérament, de par son itinéraire. Il n'est pas né avec une auréole. Il est né dans une famille, son papa n'était pas chrétien, sa maman seule était chrétienne. Il a eu une enfance, surtout une adolescence très houleuse, et ensuite des années de doute, de recherche. Il est allé dans une secte, et puis il vivait à une époque difficile, l'écroulement de l'Empire romain, des doutes sur la civilisation, et tout ça a traversé d'une période qui est à la fois une période où la civilisation, l'Empire est en partie chrétien seulement, fait qu'il rencontre des hommes qui ne sont pas chrétiens, et en ce sens, il nous ressemble beaucoup. Les analogies sont très faciles entre l'époque d'Augustin, son tempérament, et puis notre époque, et nos propres difficultés.
Alors, il faut dire aussi que l'abbaye donc de La Grâce vous accueille évidemment beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. Saint-Augustin, c'est une figure que vous citez auprès des jeunes. Vous leur donnez Saint-Augustin comme lecture pour les aider à trouver leur chemin.
Oui. Parfois, mais aussi Saint-Augustin, nous essayons surtout de le faire vivre, de le refléter dans notre vie, parce que Saint-Augustin, c'est l'homme de l'amitié, c'est l'homme d'une relation cordiale avec les autres, c'est l'homme de la charité dans l'unité, et c'est aussi plutôt cela que nous voudrions montrer dans notre vie, c'est le montrer par notre exemple de communauté ou exemple personnel, et qu'il est un modèle et qu'il est abordable.
Donc c'est un homme qui a été aussi un évêque, on y reviendra. Il est donc considéré comme l'un des pères de l'Église occidentale. C'est un docteur de l'Église. On va parcourir donc d'autres chapitres comme « Prier dans le Christ », où vous nous introduisez plus profondément avec saint Augustin sur ce qu'est la prière et particulièrement la prière chrétienne. Quand vous disiez qu'il a été tenté par... il a connu des gens qui n'étaient pas chrétiens ou étaient tentés par des sectes comme le manichéisme. À quoi ressemblaient en fait les autres religions ou ces sectes qu'il y avait autour de lui qui pouvaient le fasciner avant de sa rencontre avec le Christ ?
Augustin appartient à une époque où il n'y a pas d'athée. Personne n'est athée, il n'y a pas d'athéisme à l'époque de Saint-Augustin. Par contre, il y a des philosophies qui sont issues du paganisme, avec un ensemble de dieux qui commencent à perdre de leur influence, qui sont presque déconsidérés, mais des émergences de grandes courants philosophiques, comme le stoïcisme, qui renie en quelque sorte le mystère de la miséricorde, l'homme stoïque, l'homme sage, c'est l'homme qui a tout dominé en lui. Donc vraiment des philosophies humanistes. Et puis de l'autre, une secte comme celle des manichéens, avec un dualisme très fort, un dieu du mal face à un dieu du bien, proposant des solutions très très simples, très simplistes, qui ont beaucoup attiré les contemporains d'Augustin, mais qui l'ont très vite déçu. Il lui a fallu quand même 7-8 ans pour être déçu par les manichéens. Donc vous voyez, des philosophies ou des situations assez diverses, mais toujours dans une ambiance qui est une ambiance assez religieuse, faut-il le dire.
Alors, à propos du Christ, donc dans votre livre, vous dites la chose suivante, donc dans ce chapitre « Prier dans le Christ », « Créé à l'image du Verbe, tu portes en toi son empreinte », donc c'est vous qui parlez en même temps, Saint-Augustin, « Considère-toi donc comme un mystère sacré, comme une fenêtre ouverte vers Dieu », je dis vous et Augustin parce que vous le citez. Je citais tout à l'heure cette phrase très connue de Saint-Augustin, « Mais toi, tu étais plus profond que le tréfonds de moi-même » et plus haut que le très haut de moi-même. Il a découvert le Christ à l'intérieur de lui-même. C'est comme ça qu'on peut dire ?
Oui, on peut dire que la rencontre avec le Christ suit un parcours d'intériorité. Il a médité sur lui-même et il a rencontré dans sa misère, dans sa pauvreté intérieure, dans la pauvreté de son cœur, celui qui s'était fait petit, le Dieu humble, le Dieu de la crèche, le Dieu de la croix. A été très marqué pour lui par ce visage de l'incarnation d'un Christ qui marche avec lui. Et à partir de cette intériorité du mystère du Christ vraiment incarné, il le rencontre dans son cœur. Et là, les textes de l'Évangile et en particulier aussi de Saint Paul le persuade que l'incorporation au Christ devient la vérité de sa vie. Nous sommes incorporés au Christ, le Christ est vraiment en nous. Hein, il dit, tu veux prier dans un temple, ben prie en toi-même parce que le Christ il y habite corporellement, le baptême te fait contemporain du Christ, il te fait co-héritier du Christ, il te fait humain avec le Christ. Le Christ habite en toi. Donc le Christ, tu peux le réveiller en toi. Il peut dormir en toi comme il dormait dans la barque sur le Tibériade, et il emploie souvent cette image.
Alors oui, j'allais y venir. Donc c'est un de vos sous-chapitres. Éveille donc le Christ en toi. Ce sommeil apparent de Jésus, c'est le sommeil de ta foi. Éveille donc le Christ, éveille ta foi. Envisage des yeux de la foi cette vie future. Et là, c'est saint Augustin que vous citez. C'est une interprétation originale qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre. Quant à cet épisode où Jésus dort dans la barque.
Oui, tout à fait. En un sens, il rend le Christ très concret dans nos vies. Il veut montrer que notre vie est comme une barque sur une mer parfois agitée, tourmentée, et que le Christ y dort parce que nous ne l'avons pas réveillé par la foi, par la prière, par la charité, par l'amour. Et donc, il nous incite, il nous invite, hein, il invite à ses fidèles, et je pense qu'il nous invite encore aujourd'hui à assumer nos désirs, pour que nos désirs, nos souffrances, nos craintes réveillent le Christ en nous, fassent du Christ vraiment le contemporain de ma vie, le contemporain de ma barque. Et donc, aussi le maître intérieur, celui qui va en moi enseigner. Et pour lui, c'est un domaine très important de sa relation au Christ et de la prière. Le Christ est en toi celui qui enseigne.
C'est-à-dire ?
Il est un maître intérieur qui enseigne, qui te parle, qui te guide. Il est la petite voix de ton cœur. Il n'est pas seulement extérieur dans la prédication ou dans les livres, dans le curé qui parle à la messe. Hein. Il est aussi dans ce silence où tu lui parles, où il te dit des mots par son Esprit Saint. Et pour ça, il faut faire silence, il faut l'écouter, il faut être persuadé que notre âme est un temple, un sanctuaire.
Autre chapitre, prier avec l'Église. Alors vous citez une phrase d'Augustin qui est absolument magnifique. Il y a beaucoup d'hommes, il n'y a qu'un homme unique, car les chrétiens sont beaucoup, mais le Christ est unique. Il n'est pas unique, et nous beaucoup. Mais nous qui sommes beaucoup, en lui l'unique, nous sommes l'unique. Alors je vais la relire, et puis je vais vous laisser la commenter. Elle est donc de lui, hein. Prier avec l'Église. Il y a beaucoup d'hommes, alors vous la citez au début de ce chapitre pour nous aider à rentrer aussi dans le mystère de l'Église à la suite de saint Augustin, laissant entendre qu'il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de prière en dehors de l'Église. Il y a beaucoup d'hommes, et il n'y a qu'un homme unique, car les chrétiens sont beaucoup, mais le Christ est unique. Il n'est pas unique, pardon, et nous sommes beaucoup. Mais nous qui sommes beaucoup, en lui l'unique, nous sommes l'unique. Est-ce que vous pouvez commenter cette phrase splendide de saint Augustin ?
Oui, Emmanuel, là vous touchez à une partie de son enseignement qui est certainement un des nœuds et qui pourrait beaucoup nous aider actuellement dans une période d'individualisme. D'ailleurs, Augustin a commencé par une démarche individualiste, hein, il a rencontré le Christ dans son cœur, et ensuite il s'est ouvert au mystère du corps du Christ, de l'Église, corps de Jésus, corps du Christ. Puisque nous sommes greffés par le baptême sur le Christ Jésus, puisque nous sommes ses membres, c'est l'enseignement de saint Paul très explicite, puisque nous sommes les sarments de la vigne, hein, c'est l'enseignement de saint Jean, eh bien si on assume toute cette belle doctrine, nous pouvons dire que nous sommes dans le Christ un homme unique. Il est la tête et nous sommes les membres. Et donc quand je prie, eh bien je prie à la fois dans le Christ et dans l'Église. On ne prie plus jamais seul. Nous sommes, il dit ailleurs, hein, je crois, de mémoire, nous sommes les entrailles du corps de Jésus-Christ, donc nos souffrances, nos pleurs, nos gémissements, tout ce qui traverse l'histoire, eh bien, appartient au corps de Jésus-Christ, et donc c'est à la fois le Christ qui prie, le Christ total, le Christ tête et corps.
Alors, puisqu'on parle d'un converti, qu'est-ce que vous pouvez dire, de l'avant et de l'après de cette prise de conscience d'être un dans le Christ et à travers l'Église, ce qui est un bien grand mystère. Vous disiez donc il a commencé par une démarche individualiste. Est-ce que c'est pareil dans ses écrits, on a trace de cette découverte progressive de ce grand mystère qu'est l'Église?
Oui, on en a trace. Les premiers écrits d'Augustin sont assez philosophiques. Lorsqu'il quitte l'enseignement, puisque c'était un enseignant à Milan, il se réunit avec quelques copains pour faire une communauté où on discute, on prie, mais manifestement, son enseignement est encore individuel. Le rapport avec Dieu, avec le Christ, est plus individualiste, personnel. Il est déjà profond, hein, très profond. Et puis, c'est progressivement qu'il découvre la doctrine du corps, ce qu'on appelle maintenant le corps mystique du Christ. Il dit le corps total du Christ. Le Christ, tête et membre. La tête, c'est le Christ, c'est Jésus, qui est au ciel, mais qui nous propose déjà son bonheur, et ce bonheur traverse déjà le corps du Christ, c'est-à-dire nous, et qui nous donne la source de l'espérance. Et toute notre prière est marquée par cela, ce mouvement. Et pour lui, Augustin, c'était de passer justement de l'homme individuel, de l'homme qu'on appellerait maintenant individualiste, à cet homme qui est collectif, qui est à la fois unique, hein, qui a sa personnalité, mais en même temps qui fait partie d'un grand mouvement d'amour et de solidarité, de communion, qui s'appelle l'Église et qui traverse le temps aussi. La prière nous unit aux hommes de tous les temps, et nous unit aux hommes de tout l'espace, et donc toute prière construit l'unité de l'Église.
Alors vous avez une phrase aussi qui est très belle. On dit que des cerfs harassés et devant nager appuient l'un sur l'autre le poids de leur tête, c'est-à-dire leur fatigue achève ainsi leur voyage. Et vous laissez entendre donc que c'est ainsi que l'on peut voir aussi le mystère de l'Église. Alors il y a un autre chapitre qui s'appelle « Demander Dieu à Dieu ». Demander Dieu à Dieu, pourquoi ce chapitre ?
Oui, très, très belle expression d'Augustin qui est vraiment de lui et qui résume bien une partie de sa démarche de prière. C'était un pasteur, c'était un évêque, il enseignait dans un port de pêche de la Méditerranée, il avait des commerçants, des marchands d'esclaves, des gens de toutes sortes, mais qui étaient aussi comme nous marqués par des demandes qui étaient souvent très humaines, très imparfaites, très personnelles, très temporelles. Les gens demandaient avoir plus de richesses, à avoir une jolie femme, tout ça est très bien. Mais il se demande, est-ce que tout ça n'est pas mêlé aussi d'ambition? Est-ce que cela n'est pas lié à de la jalousie? Est-ce que vos prières sont pures? Est-ce qu'elles ne sont pas mêlées? Et il veut entraîner donc ses fidèles, non pas seulement à demander des biens temporels, des succès, des choses de la terre, mais à demander, eh bien, finalement Dieu. Dieu à Dieu. Demande Dieu à Dieu. Demande à posséder Dieu lui-même. Tu demandes à avoir le champ de ton voisin, tu demandes à être libéré pour avoir une bonne santé, ben demande la santé éternelle, demande à posséder un champ qui est plus grand que celui de ton voisin, demande à posséder l'éternité. Et c'est Dieu, l'éternité c'est Dieu, la santé éternelle c'est Dieu, demande Dieu à Dieu. C'est une très belle démarche d'Augustin qui devrait être la nôtre, de savoir passer d'une prière, on pourrait dire utilitaire, et elles sont bonnes, hein, elles sont nécessaires, à une prière qui est plus gratuite et surtout plus théologale, plus transcendante, qui demande à rencontrer le mystère de Dieu.
Quand vous dites que c'était dans un évêque, vous précisez un petit peu la ville, à quoi ressemblait la ville où il était évêque, vous dites que c'est un évêque enseignant, c'est-à-dire en fait il prêchait régulièrement en chaire, il enseignait particulièrement, à quoi ça ressemblait en fait, il trouvait à s'adresser à ce peuple en de diverses occasions?
Oui, ce peuple n'avait pas la télé, la radio, et venait volontiers dans l'église l'écouter. Il prêchait probablement tous les jours à la messe, peut-être parfois deux fois par jour. On a des milliers de sermons d'Augustin. C'est certainement un des auteurs de l'Antiquité dont on a le plus de textes. On peut penser qu'il a dû prêcher presque 10 000 fois, peut-être. Il nous reste quelques milliers. Et donc cet enseignement quotidien était un enseignement pour ses fidèles, très simple, hein, de tout type. Il avait des religieux, il avait des prêtres, et puis il avait ses marchands, ses pauvres, ses agriculteurs, ses anciens esclaves. Il leur parlait longuement et il les enseignait tous les jours pour les conduire à l'intériorité, à la prière, à l'unité, à la charité.
Et qu'est-ce qu'on sait du succès qu'il avait, si c'était quelque part un peu le journal de 20 heures de l'époque?
Oui, parce que des scribes, hein, des secrétaires prenaient des notes pendant ces sermons, parfois 2-3 personnes, 4, et parfois ils s'interrompaient en disant « mais vous faites trop de bruit, arrêtez d'applaudir », parce que c'était des Africains du Nord, ils avaient une expansivité, une bonhomie qui leur faisait parfois participer aux homélies d'Augustin en priant, en applaudissant, en disant leur accord, leur joie. Et parfois, il dit, on va s'arrêter parce qu'il fait trop chaud maintenant et dans l'église. C'était très vivant, en tout cas parfois très vivant, et apparemment ils écoutaient.
Alors il y a une phrase, avant qu'on fasse une deuxième pause, que j'aimerais que vous commentiez, la rencontre promise que ta prière prépare, donc c'est vous qui parlez, mais toujours vous faites parler Saint-Augustin, la rencontre promise que ta prière prépare, c'est un toucher plus brûlant qu'un doigt touchant de l'or pur, un toucher de substance à substance. Quelle est la promesse qu'Augustin fait dans votre petit ouvrage, toucher de substance à substance, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude d'entendre parler de la prière.
Oui, tout à fait. Enfin, l'expression substance à substance, elle est littéralement de Saint Jean de la Croix. Mais je pense que Saint Jean de la Croix, hein, comme beaucoup de carmes d'ailleurs, hein, comme Thérèse d'Avila, ont connu les œuvres d'Augustin. Et Augustin a vraiment mis le doigt sur cette profondeur du rapport que nous entretenons avec Dieu dans la prière. C'est que, un petit peu comme un métal qui est plongé dans le feu, à mesure que nous prions, que nous avançons dans la voie de prière, eh bien, le métal dans le feu devient un peu feu lui-même. Saint Augustin, comme beaucoup de pères de l'Église, utilise l'expression diviniser. Nous sommes divinisés, c'est-à-dire que nous ne devons pas des dieux, bien sûr, mais tout notre être participe de la lumière de Dieu, de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu. Ça va se traduire parce qu'il appellera aussi la découverte des sens intérieurs. Tu goûtes Dieu, tu sens Dieu, tu vois Dieu à l'intérieur, bien sûr. C'est quelque chose de mystérieux qui a du mal à être exprimé uniquement par la philosophie, hein, par des concepts, et qui vaut mieux exprimer par des métaphores. Être brûlé, être touché, être traversé de flèches, et sentir que Dieu nous devient très proche, on devient mêlé au mystère de Dieu.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour finir de parler de la prière et de votre ouvrage, Saint Augustin, maître de prière et docteur de la louange, paru aux éditions du Carmel.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Saint Augustin, ce maître de prière, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et avec nous, pour nous prendre par la main et nous faire découvrir Saint Augustin et ce docteur aussi de la louange, donc Emmanuel Marie, vous êtes prêtre et abbé des chanoines de la grâce, abbaye de la Mère de Dieu, c'est bien cela, hein ?
Oui, c'est notre abbaye est dans les Corbières, donc plutôt vers l'est, par rapport à Toulouse, voilà, dans les Corbières.
Et on parcourt donc votre ouvrage, Saint Augustin, maître de prière et docteur de la louange, paru aux éditions du Carmel. Alors il y a des chapitres, les chapitres sont très simples, mais certains accrocheront peut-être plus le lecteur que d'autres. Entre autres, Dieu est-il sourd à nos prières ? Alors je vous propose dans cette dernière partie un peu que vous nous fassiez, on va dire, un petit vade mecum de la prière, ou en tout cas quelques quelques clés, après qu'on en ait, on ait dit des choses si belles, on ait entendu en tout cas Saint-Augustin parler de la prière, que Dieu est-il sourd à notre prière? Est-ce à dire que c'est une question qui traverse aussi l'œuvre de Saint-Augustin avant qu'on se plonge dans votre chapitre?
Oui, tout à fait. Et très certainement parce que c'était aussi une question qui traversait le cœur de ses fidèles. Pourquoi Dieu parfois semble ne rien répondre à nos prières? Très certainement, les contemporains d'Augustin devaient se poser la question. Et oui, pourquoi est-ce que Dieu semble-t-il faire silence alors que je crie, que je l'implore? C'est une vraie question, et Augustin, au cours de sa prédication d'évêque, a essayé d'y répondre. Plusieurs lignes de réponses possibles. D'abord, c'est parce que parfois les demandes que je fais à Dieu ne sont pas bonnes. Tout simplement impures, illégitimes. Si je prie pour que Dieu se venge de mon voisin, si je prie pour concupiscer, pour désirer la femme d'autrui, cette demande n'est pas bonne, donc Dieu se tait devant ma demande. Ensuite, parce qu'il peut aussi, comme il dit, exaucer en n'exauçant pas. Un très bel exemple est celui d'Augustin lui-même. Augustin voulait être moine, il voulait quitter le monde, il ne voulait pas être prêtre ou évêque, et donc il a prié pour que ça s'écarte de lui, il a prié pour ne pas être appelé au sacerdoce, et Dieu ne l'a pas exaucé, et c'est pour notre bien à tous, c'est pour le bien de l'histoire de l'humanité.
Il ne l'a pas exaucé, et il est même devenu évêque assez rapidement, donc vous pouvez peut-être en dire un mot, et contre son gré aussi.
Contre son gré, il cherchait à recruter un ami dans la ville d'Hippone où il allait, là, dans ce petit port de pêche de la Méditerranée. Et puis il y allait aussi parce qu'il savait que dans cette ville, il y avait un évêque et que donc il risquait pas d'être élu évêque. Or, cet évêque, Valère, ne parlait pas très bien la langue du pays, punique, et puis était âgé et cherchait un successeur. Donc, dans l'église, il a tout simplement demandé un successeur. Et or, Augustin était assez connu. Il est arrivé là, et donc on l'a pris, et par obéissance, contre son gré et malgré sa prière, il a été nommé prêtre et puis consacré évêque ensuite. Et donc, vous voyez, Dieu peut ne pas faire exaucer en donnant plus que ce que nous avions demandé ou en demandant autrement. Et pour ça, il retarde la réponse pour que notre âme soit plus préparée. Augustin le dit souvent, hein, ton âme a besoin de se purifier, elle a besoin de s'élargir aussi. Elle n'est pas assez dilatée à ma volonté pour recevoir tous les biens que je veux te donner. Donc les retards de Dieu à nous répondre, c'est peut-être aussi parce que nous ne sommes pas encore assez prêts, parce que notre prière n'est pas assez pure, et qu'il faut élargir en quelque sorte l'outre de nos âmes, hein, comme on élargirait un sac pour qu'il reçoive plus. C'est aussi une image très chère à Augustin.
Alors,
recevoir plus.
Dans votre livre, vous avez aussi cette phrase, vous laissez entendre, c'est l'un des rôles de la prière, alors de ta prière, c'est toujours, vous adressez avec Saint-Augustin directement au lecteur, c'est l'un des rôles de ta prière réside dans la recherche intelligente des desseins de Dieu sur toi. C'est une longue quête, parfois dans la nuit des incompréhensions, sous la lumière de la foi. Vous laissez entendre quoi? Qu'en fait, à force de prier, on apprend à rentrer quoi dans la pensée même de Dieu, qu'il faut pas s'étonner en fait que ça soit plein d'incompréhension, de nuit. Cette remarque en tout cas m'a frappé. C'est une longue quête parfois dans la nuit des incompréhensions sous la lumière de la foi.
Ah oui, tout à fait. La prière est un dialogue. Hein. Et même si Dieu ne nous appelle pas au téléphone, il nous parle, et la prière est un des lieux où nous découvrons la volonté de Dieu. Si je prie avec simplicité, comme un enfant, j'écouterai et je cherche en fait la volonté de Dieu. Et c'est dans la prière confiante, la prière constante, que je trouve la volonté de Dieu plus qu'ailleurs. Et parfois c'est lent, c'est lent parce que je suis pas prêt à accepter cette volonté, elle m'est dure. Et la prière va encore en quelque sorte assouplir mon âme, assouplir ma volonté pour l'adapter à la volonté de Dieu. Non pas pour changer la volonté de Dieu, mais justement pour ajuster la mienne à la sienne.
Il y a une autre phrase, l'amour nourrit cette quête des volontés de Dieu, car on n'entre dans la vérité que par la charité. On n'entre dans la vérité que par la charité. C'est du Saint-Augustin, ça aussi?
Ah oui, tout à fait. C'est le cœur de sa doctrine sur l'intelligence. Pour lui, bien sûr, l'intelligence est première, mais on ne comprend bien les choses qu'en les aimant. C'est caractéristique avec les personnes. Je ne connais bien une personne que si je l'aime. Et en aimant, on connaît. Donc en rentrant dans l'amour, par l'amour dans la prière, eh bien, je finirai par mieux comprendre la volonté de Dieu. C'est comme un aller-retour permanent entre mon intelligence et mon amour. L'amour nourrit l'intelligence.
Pour finir, j'aimerais que l'on parcoure ensemble un dernier chapitre, ces flèches qui traversent les cœurs, un appel à contempler. Alors voilà, vous nous parlez quelque part de ce à quoi on est promis. On imagine que si vous l'avez fait, c'est que saint Augustin a connu, on va dire, quelques grandes consolations dans la prière, hein, ce toucher de substance à substance, comme vous le disiez tout à l'heure en citant saint Jean de la Croix. Vous laissez entendre que saint Augustin, comme une Thérèse d'Avila, a décrit, on va dire, les différents degrés de l'âme dans son chemin vers Dieu. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu de pédagogie, nous dire ce que saint Augustin en dit, quelles sont ces différentes marches?
Oui, certainement. Augustin, qui est quand même pudique sur lui-même, très pudique quant à sa vie mystique, sa vie spirituelle profonde, a dû connaître des choses très profondes, très très intimes de la prière. Il semble bien qu'il veuille montrer que tout homme, tout chrétien est appelé à une vie très intime, très belle avec le Seigneur, mais que ça reste mystérieux. Ça reste mystérieux parce que ça commence aussi dans le quotidien, le concret, et le quotidien et le concret, c'est d'abord la purification de notre prière ou l'acceptation de ce qui est mystérieux dans la prière, par exemple des distractions, les sécheresses, les souffrances intérieures qui viennent de nos vies, de nos soucis. Il en a eu comme pasteur, comme évêque, beaucoup beaucoup de soucis. Donc cette persévérance qui demande un peu de marcher dans la nuit, quand on est tout le temps soucieux, tout le temps distrait, parce qu'on a trop de soucis, hein, une maman qui a des enfants malades, un homme qui a des soucis de travail, ne peut pas ne pas être distrait ou sec dans sa prière. Donc Augustin d'abord veut nous donner confiance dans la nuit. Ensuite, il nous fait percevoir qu'il y a des appels à aimer qui sont comme des flèches brûlantes qui viennent et qui nous blessent en quelque sorte, qui nous touchent et qui nous font comprendre qu'on est fait pour Dieu. Il nous fait comprendre que nous sommes pour Dieu parce que dans la prière, on ressent tout d'un coup le sentiment que les biens du monde, les réussites humaines sont caduques, sont faibles devant les choses de Dieu, donc, le sentiment de la fragilité des choses. Ou alors, tout d'un coup, il perçoit le mystère du mal comme avec plus grande sensibilité. On devient très sensible au péché, au mal. C'est une manière de rentrer dans l'amour de Dieu et dans la contemplation. Et puis aussi que la prière devient plus large, qu'on se met à prier pour l'Église, qu'on devient sensible aux souffrances de l'Église. Et Augustin essaye de faire comprendre tout ça à ses fidèles pour leur montrer qu'ils sont amenés à cheminer petit à petit, par degrés, vers une lumière plus profonde, peut-être parfois plus confuse aussi. Et c'est là où il est important de percevoir que nous rentrons comme dans une nuée.
D'ailleurs, vous appelez ça la nuée vers le silence, dans la nuée vers le silence.
Oui, tout à fait. Un petit peu comme la nuée de l'Exode, hein, qui conduit le peuple élu vers la terre promise, ou la nuée de la transfiguration, hein, dont Jésus s'entoure au Tabor, hein, sur la montagne de la transfiguration. La nuée évoque à la fois la présence de Dieu, mais une présence qui est confuse, une présence qui est à la fois certaine, une connaissance aimante, mais en même temps quelque chose qui désarçonne, qui n'est pas conforme à notre manière de comprendre, qui n'a pas la logique des mathématiques ou de la philosophie qui déduit. Mais c'est plus des impressions fortes, mais que l'on sent comme source de confiance, source de paix, source d'amour, de dilatation, comme une brûlure aussi parfois. Parce que Dieu prépare la maison de notre âme et il veut donner quelque chose de sa connaissance. Or, la connaissance des choses de Dieu, elle dépasse totalement nos mots, nos phrases, nos méditations, nos intelligences. Et du coup, la contemplation, la prière devient sans mots. Celui qui commence à ne plus avoir besoin de méditer, d'employer des mots, des phrases, des prières toutes lues, toutes faites, eh bien c'est probablement qu'il est appelé à rentrer dans cette contemplation-là.
Père Emmanuel Marie, pour finir, vous l'avez évoqué un petit peu au début de l'émission. Saint Augustin parle-t-il de Noël ? Il n'est pas connu comme Saint François d'Assise pour avoir fait les premières crèches vivantes, mais vous avez l'air de dire que c'est quand même l'enfant Jésus qui l'a mis, entre autres, sur le chemin de la foi. Que nous dit-il de Noël ? Est-ce qu'il vous revient quelques-uns de ses sermons en tête ou de ses confessions ?
Oui, Augustin a beaucoup aimé Noël. Et comme vous le dites, comme vous le rappelez, parce qu'il a été touché par le mystère de l'incarnation. Pour lui, Noël, c'est la fête d'un Dieu qui se fait petit pour nous rejoindre, un Dieu qui se fait humble. Augustin a été très marqué par le mystère de l'humilité du Verbe incarné, de l'humilité de Jésus. Pour lui, la fête de Noël, c'est vraiment la fête de cette humilité d'un Dieu qui, pour nous rejoindre, ne trouve pas d'autre moyen que de se faire très pauvre, très simple, très, très abordable. Et ça correspond aussi à sa conversion. Augustin a vécu dans un monde où la philosophie a quelque chose d'ambitieux, d'orgueilleuse même. Un monde où la morale, c'est la morale du héros antique. Paradoxalement, Dieu qui est grand, Dieu qui est fort, eh bien, se fait petit pour rejoindre l'homme qui est faible, qui est pauvre. C'est toute cette spiritualité de l'incarnation de Noël qu'il a proposé à ses fidèles pendant beaucoup de ses serments. La fête de l'amitié, en fait, d'un Dieu qui, pour nous rejoindre dans notre recherche à nous, se fait l'ami, mais l'ami des plus simples, des plus pauvres, en se faisant enfant.
Eh ben merci beaucoup, Père Emmanuel Marie. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Saint Augustin, maître de prière et docteur de la louange. C'est donc un livre à retrouver, paru aux éditions du Carmel. Un grand merci à vous.
Merci Emmanuel et bonne fête de Noël.
Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.